Bonjour à tous. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 19, chapitre 19, verset 7 jusqu'à le verset 11. Aujourd'hui, j'ai apporté aussi des feuilles comme ça pour, avec des versets pour lire ensemble. Les feuilles sont à l'entrée. Sont à partir du verset 8, pardon. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Le titre de le message que je vais vous partager aujourd'hui est la suffisance de la parole de Dieu. Et avec l'aide du Seigneur, nous commençons une courte série pendant quelques dimanches sur la suffisance de la parole de Dieu. Comme nous le savons, en octobre prochain, et le 31 octobre, les chrétiens évangéliques protestants commémorent la réforme protestante. Comme nous le savons, la réforme protestante du XVIe siècle a été ainsi nommée car elle impliquait une protestation contre diverses pratiques et enseignements du catholicisme romain. Cependant, beaucoup de ceux qui se disent protestants aujourd'hui n'ont pas une idée claire de ce qui revendique les réformateurs. Il faut être clair que lorsqu'il s'agit d'identifier l'enjeu clé de la réforme, les historiens reconnaissent souvent deux causes. La cause matérielle et la cause formelle. Qu'est-ce que c'est? La cause matérielle ou évidente, ce qui ressortait était la question de la justification. Ou comment une personne est rachetée par Jésus-Christ. La cause formelle, qui était la question sous-jacente, au plus profond, la question qui n'était pas floue et qui était pourtant au cœur de la question, était la question de l'autorité, spécifiquement l'autorité de l'Écriture. Ainsi, les cris de guerre de la réforme concernant la cause matérielle étaient sola fide, c'est-à-dire la foi seule, tandis que les cris de guerre concernant la cause formelle étaient sola scriptura, c'est-à-dire seulement l'écriture. Cette déclaration affirmait que l'autorité finale pour les chrétiens était l'écriture seule. Alors, lorsque Martin Luther, un moine augustin, loua les 95 thèses à la porte de Wittenberg, il invitait ainsi à un débat sur certains des abus qu'il avait vus dans les programmes d'indulgence papale. Cette protestation initiale s'est transformée en une confrontation majeure avec les autorités catholiques romaines sur divers points de la théologie. Martin Luther a participé à plusieurs débats importants avec certains représentants de l'Église catholique. L'un de ces débats, et peut-être le plus important, fut le débat devant les représentants du pape Thomas Cardinal Cajetano à la Diète impériale de Augsbourg en 1518. À cette époque, Luther déclara que le pape pouvait faire des erreurs dans cette déclaration ecclésiastique. Et même si la déclaration catholique sur l'infaillibilité du pape n'était pas officielle à l'époque, elle a été donnée 3 siècles plus tard, en 1870. Néanmoins, l'idée d'autorité papale était déjà à cette époque tacitement assumée dans l'Église romaine. Luther a alors osé contester cette idée, insistant pour que l'enseignement du pape soit documenté avec les Écritures. Historiquement, les théologiens catholiques romains divisés entre eux et quant à la position de la plus haute autorité. Certains d'entre eux pensaient que les conseils des églises avaient plus d'autorité que les papes, et d'autres pensaient que les papes avaient plus d'autorité que les conciles. Mais Luther a nié que l'un d'eux est l'autorité ultime. Luther a dit que l'Écriture est la plus haute autorité sur tous. Il ne croyait pas que les conciles collectivement ou les papes individuellement parlaient infailliblement en soi. Or, ces questions eurent son point culminant à la Diète de Worms en 1521, quand Luther reçut l'ordre de défendre sa cause devant les princes de l'Église et l'empereur Charles V. Quand ils lui demandèrent de se rétracter sur ses croyances et ses écrits, Luther, il a répondu après de nombreuses reconsidérations: « À moins que je ne sois pas convaincu par les témoignages des Écritures ou pour des raisons évidentes, puisque je ne fais pas confiance au pape ni à son concile, parce qu'ils se sont toujours trompés et se sont contredits, je reste ferme dans les Écritures que j'ai adoptées comme mon guide. Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu, et je n'ai pu ni vu révoquer quoi que ce soit en reconnaissant qu'il n'est ni sûr ni correct d'agir contre la conscience. C'est ma position et je ne peux pas la changer. Que Dieu m'aide. Amen. » C'est ça qu'a dit Luther. Dans cette occasion-là, la partie la plus significative de cette déclaration de Luther est l'insistance à être convaincu par les témoignages des Écritures. Luther considérait la Bible comme l'autorité ultime. Il a dit que les papes et les conciles se sont trompés, mais pas les Écritures, qui sont supérieures aux deux. Ainsi, la doctrine de l'Écriture a été immédiatement élevée comme un point central pour tous les corps protestants du XVIe siècle et jusqu'à nos jours. Cependant, nous disons avec regret qu'une position aussi élevée de la parole de Dieu est aujourd'hui minée et laissée pour compte. Nous devons noter les événements malheureux qui se produisent aujourd'hui même dans de nombreuses églises chrétiennes à travers le monde. Même quelques-unes de celles qui prétendent être réformées aujourd'hui. Et le pire, c'est que l'attaque ne vient pas seulement de l'extérieur de l'église, mais de l'intérieur aussi. Je crois qu'il existe une stratégie forte, grande et quelque peu subtile qui se développe aujourd'hui parmi ceux qui se disent chrétiens évangéliques. Et cela est guidé et magistralement planifié par le grand ennemi du Seigneur, Satan. Et malheureusement, il est adopté par de nombreuses personnes dans les églises évangéliques et des dirigeants évangélique aussi. C'est une stratégie subtile et forte qui est fondamentalement une attaque contre la suffisance de la parole de Dieu. Nous reconnaissons qu'à chaque époque, la parole de Dieu a été attaquée. Et nous devons être vigilants pour discerner comment elle est attaquée. Je crois qu'aujourd'hui, l'attaque contre les Écritures vient principalement de ceux qui nient sa suffisance pour toutes les questions de foi et de conduite. Une des grandes déclarations de la théologie évangélique traditionnelle depuis des siècles, est que les Écritures sont adéquates pour toutes les questions de foi et de conduite. Par exemple, notre confession de foi baptiste, à laquelle nous adhérons, déclare dans le premier chapitre ainsi: l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine, infaillible de toute connaissance, de foi et d'obéissance qui sauve. Et ajoute ensuite tous les conseils de Dieu concernant toutes les choses nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, et ou bien expressément consigné dans les Écritures saintes où il est contenu de façon nécessaire. Rien à aucun moment ne peut lui être ajouté ni par une nouvelle révélation de l'Esprit, ni par des traditions humaines. C'est ça que dit notre confession de foi. Mais cela est attaqué aujourd'hui. Et je dois dire, malheureusement, même par quelques leaders reconnus dans le monde évangélique, certains d'entre eux, même quelques-uns qui se disent réformés. Par exemple, certains appartiennent à la célèbre et connue Coalition pour l'Évangile, ou The Gospel Coalition. De quelle manière la suffisance de la parole de Dieu est-elle attaquée aujourd'hui? Eh bien, les moyens sont variés, mais permettez-moi d'en citer quelques-uns. La suffisance de la parole de Dieu est attaquée aujourd'hui, premièrement, par ce que nous pourrions appeler les techniques mondaines de croissance et d'administration de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire? À l'idée que le monde a beaucoup plus à nous apprendre sur l'intendance et le leadership et comment l'Église du Seigneur devrait être conduite et comment les faire grandir que la parole de Dieu. Et de nombreux dirigeants et églises regardent le monde et non la parole de Dieu et apprennent de cette méthode séculière, des groupes de musique, lumière, show chrétien, etc., comme s'ils avaient la clé pour édifier l'Église du Christ. Ils nous disent que connaître la parole de Dieu et ses principes en relation avec la croissance de l'Église ne sont pas adéquats et par conséquent nous devons nous tourner vers les techniques de marketing et les systèmes de réussite que le monde utilise pour ses organisations et les transférer à l'Église si nous voulons vraiment que l'Église grandisse et se développe. Vous pouvez le voir entre autres dans les églises connues aujourd'hui comme émergentes. Ici, à Montréal, il y en a à proximité. Je pense que c'est une attaque subtile contre la suffisance de la parole, la révélation de Dieu dans le domaine de la croissance et du développement de l'Église. Une autre manière d'attaquer la suffisance de la parole de Dieu aujourd'hui est à travers de ce que nous pourrions appeler le régime de divertissement spirituel ou l'Église au goût du consommateur. Nombreux sont ceux qui croient que les Écritures, prêchées avec exactitude et fidélité, ne fournissent pas une alimentation suffisante aux croyants de l'Église et qu'avec elle, il doit y avoir un certain divertissement. Aujourd'hui, les églises dépensent beaucoup d'argent pour divertir les gens. Nous sommes la société du divertissement. Il existe aujourd'hui ce que nous appelons une liste de célébrités chrétiennes, aimées et acclamées par les foules chrétiennes aussi, qui souhaitent se divertir par divers moyens, mais qui ne croient pas que l'enseignement, l'étude l'apprentissage et l'application de la parole de Dieu soit un régime assez excitant. En fait, il y a beaucoup de gens qui semblent assez ennuyés par l'exposition de la parole et qui sentent qu'ils sont désespérément besoin de se divertir. D'autres savent la parole de Dieu parce que nous pourrions appeler le mysticisme miraculeux. Par exemple, Peter Wagner, qui était un théologien pentecôtiste, a déclaré il y a des années à la convention des universités bibliques américaines: l'évangile clair et simple est insuffisant sans signes et miracles. Nous ne pouvons pas atteindre le monde, dit-il, avec seulement la parole de Dieu. Nous devons avoir des signes et des miracles. Et il dit cela avec beaucoup d'autres qui l'appuient. Quatrièmement, d'autres redéfinissent ce qui dit l'Écriture en niant le rôle d'autorité que l'Écriture décrit clairement dans le domaine de la famille, de l'Église et de la société en général. Il fut un temps où nous pensions que la Bible nous donnait les principes appropriés pour le mariage, la famille et l'Église, que si nous étudions la parole de Dieu, nous pourrions connaître les plans divins pour la famille et l'Église, ses rôles différents et complémentaires, son autorité, la portée de son travail, de son ministère, etc. Dans le passé, on acceptait ce que la Bible disait sur ces questions, que ce soit concernant le rôle des hommes et des femmes dans le contexte de la famille et de l'Église. Mais maintenant, nous entendons que la Bible n'est pas sophistiquée ou qu'elle est dépassée en ce sujet. Et cela arrive à un niveau global dans l'Église, particulièrement marqué dans le domaine de l'Église libérale, dans le domaine de l'homosexualité, et dans les églises plus évangéliques, en redéfinissant le rôle des femmes, en s'éloignant de l'enseignement biblique traditionnel. Et enfin, je ne mentionne que quelques points, mais je voudrais en mentionner un de plus dans lequel la suffisance de l'Écriture est minée, et c'est dans le domaine de l'acceptation de la psychologie comme partie essentielle du ministère de l'Église. Les conseils des psychologues et des techniques centrés sur l'homme ont-ils réussi à tenir leur promesse d'aider les gens à résoudre leurs problèmes spirituels les plus profonds et les plus personnels? C'est vrai que non. Mais aujourd'hui, la psychologie s'est infiltrée dans l'Église d'une manière qui est vraiment terrifiante, à tel point qu'il y a un exode gigantesque de la terre traditionnelle de la théologie biblique vers la nouvelle terre promise de la psychologie et de la psychothérapie. Aujourd'hui, un grand nombre d'églises exigent de leurs futurs candidats pasteurs non seulement qu'ils connaissent la Bible, mais aussi qu'ils soient psychologues. Les pasteurs qui allaient au séminaire et apprenaient la parole de Dieu et maîtrisaient les Écritures vont maintenant dans les écoles de psychologie pour étudier la sagesse humaine, pour faire face aux problèmes de l'humanité. Ceci, encore une fois, est une manière subtile de dire que la Bible est insuffisante. Les séminaires modifient radicalement leur programme. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, les séminaires embauchent des psychologues et des psychiatres pour enseigner dans leurs écoles, pour enseigner la psychologie. Ils ajoutent plus de cours de psychologie, diminuant ainsi les contenus bibliques de leur programme, et les églises l'acceptent aussi. C'est un énorme exode. Maintenant, d'une part, le monde se moque de l'Église du Christ, selon eux, pour être si primitif, pour supposer que la Bible peut donner aux gens l'aide dont ils ont besoin pour leur plus grand problème de l'existence humaine. Le monde a dit que la Bible ne peut pas aider, et maintenant, malheureusement, c'est triste à dire, quelques églises se joignent au monde et sont d'accord avec l'idée que la Bible n'est pas adéquate pour traiter ces problèmes selon les conseils divins. Et d'un autre côté, le monde lui-même reconnaît l'inexactitude de la psychologie. Richard Feynman, qui était un physicien et athée américain de premier plan, a reconnu que la psychanalyse n'est pas une science. Que voulait-il dire par là? Il voulait dire qu'il n'y a pas de règles pour les guider. Ce sont simplement de nombreuses opinions humaines. En fait, le professeur de l'Université de New York, Paul Bitt, a critiqué l'Église chrétienne pour sa tendance à faire ce qu'il appelait acheter à un haut prix et vendre à un bas prix par rapport à la science sociale. Il a dit, l'Église est prête à adopter les courants ou les tendances de pensée populaire, alors qu'en même temps, les professionnels laïcs commencent à les critiquer. C'est inouï. C'est incroyable, mes frères. Mais le monde voit que l'Église, en termes généraux, chancelle des techniques aux nouvelles techniques, des astuces aux nouvelles astuces, sans savoir qui nous sommes ni où nous devrions aller. Nous ne semblons plus croire que la Bible est suffisante pour la vie, la conduite de l'Église. C'est un péché de proportions monstrueuses, nier la suffisance de la parole de Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous répondre à cela? Comment pouvons-nous y faire face en tant qu'Église et en tant que croyants? Pouvons-nous aller à la Bible et y trouver qu'elle est suffisante pour toute fois vie et conduite? Et la réponse, je crois, est un oui accablant. Donc, nous voulons commencer à exposer le dimanche prochain le psaume 19. Je pense que c'est l'un des passages les plus importants sur la suffisance de l'Écriture dans toute la Bible. Mais dans les minutes qui restent, je veux que nous regardions simplement plusieurs passages qui renforceront notre compréhension de cette vérité vitale, la suffisance de la parole de Dieu pour sa propre gloire, le salut de l'homme, de la foi et de la vie. Alors, passons à la parole de Dieu alors que nous considérons cette pensée. La Bible suffit-elle? Oui, la Bible est toujours la seule source de révélation divine et de puissance qui peut vous soutenir sur votre chemin avec Dieu. Par exemple, premièrement, l'Écriture est la source de la vérité qui sanctifie. Quand Jésus a parlé de la sanctification d'un croyant, c'est-à-dire de la sainteté d'un croyant, de la séparation du péché, il a prié le Père dans Jean 17, verset 17, le premier verset dans ces feuilles. Le Seigneur a prié au Père céleste. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Or, le mot sanctifier signifie se détourner du péché saint, mis à part pour Dieu. Il a l'idée de la perfection spirituelle, d'être spirituellement complet, pour que nous atteignions la totalité d'être en Christ, afin que notre croissance spirituelle atteigne sa totalité à son plus haut niveau. Et le Christ dit, Père, tu m'as donné ceci, purifie-les, sanctifie-les, détourne-les du péché pour toi-même et fais tout cela par ta parole. Et puis il dit dans le même verset, ta parole est vérité. Nous concluons donc très évidemment que la pleine sainteté du croyant est l'œuvre de l'Esprit de Dieu par sa parole. Ce n'est pas la parole de Dieu plus autre chose comme le font les sectes. Par exemple, disent les mormons, vous avez besoin de la parole de Dieu et des visions de Joseph Smith. Les catholiques romains, vous avez besoin de la parole de Dieu plus les décrets de l'Église et ainsi de suite. Vous avez besoin de la Bible et des nouvelles révélations, dit les charismatiques, par exemple. Vous avez besoin de la Bible plus la sagesse et la philosophie humaine, plus la psychologie, etc., etc. Tout cela est quelque chose qui existe depuis des siècles. Et c'est un coup dur contre la suffisance des Écritures. Mais Jésus a dit, Père, rends-les parfaits et purs par ta vérité. Ta parole est vérité. La sainteté complète du croyant est l'œuvre de la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu est le moyen de recevoir la bénédiction de Dieu. Écoutez le témoignage du prophète Michée, chapitre 2, verset 7. Où l'œuvre de la parole de Dieu dans la vie d'un saint est écrite avec cette importante déclaration. Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec voiture? En d'autres termes, Dieu parlant à travers les prophètes dit, n'est-il pas vrai que lorsque vous vivez en vie obéissante ma parole, ma parole produit du bien dans votre vie ou une bénédiction dans votre vie? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Et le Seigneur Jésus a déclaré dans Luc, chapitre 11, verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Enfin, jeune, frère, la parole de Dieu est la source du plus grand bénéfice pour un croyant obéissant qui marche dans la justice. La parole de Dieu nous apporte toute la bonté que Dieu peut nous donner lorsque nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Troisièmement, la parole de Dieu est le moyen de recevoir la sagesse divine. Le psalmiste a écrit dans le psaume 119, verset 98, en parlant de la parole de Dieu, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Qu'est-ce qu'il dit le psalmiste? Toute vraie sagesse vient de Dieu. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. En méditant sur les témoignages de Dieu, nous comprenons plus que nos enseignants. Lorsque nous comprenons notre propre cœur, la parole écrite est un guide plus sûr vers le ciel que tous les parents, enseignants et anciens de l'Église. La sagesse de Dieu ne vous vient pas par des sources humaines. Dieu donne sa sagesse. Dieu nous donne sa sagesse par l'Esprit de Dieu révélant son enseignement dans la parole de Dieu à nos vies. Quatrièmement, la parole est la source de toute puissance spirituelle. Romains 1, verset 16 dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut quiconque croit. Puissance de Dieu qui sauve. L'âme transforme le cœur, qui change les vies. C'est ça la parole de Dieu. La puissance de Dieu, dit l'apôtre Paul, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des vies qui auparavant ne voulaient pas ou n'aimaient pas Dieu sont maintenant amenées par la puissance de l'Esprit à travers la parole au pied du Sauveur pour l'aimer et le servir du cœur. C'est ça que le Seigneur a fait avec nous aussi. Cela en fait de nouvelles créatures. Jacques 1,18 nous dit: Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Mais certains nous disent aujourd'hui que nous ne pouvons pas donner aux gens seulement la Bible, mais nous devons aussi faire des signes et des miracles. Ils disent: Nous ne pouvons pas simplement nous attendre à ce que les gens vivent la Bible. Nous devons avoir un pouvoir surnaturel sur les démons, un pouvoir sur les diables, un pouvoir sur la maladie et un pouvoir sur ceci et cela, et que nous devons déclarer et décréter ceci et cela et ainsi contrôler notre environnement. Mais notre Seigneur rend son témoignage sur la suffisance des Écritures quand il a déclaré à Luc 16 à propos de Lazare, le mendiant plein de plaies et l'homme riche. Vous vous souviendrez que Lazare est mort et est allé au ciel avec Abraham, le lieu de la bénédiction. Le riche est mort et est allé au feu et a été tourmenté. Et le riche a dit, gênez-vous pas que mes frères viennent ici, dans ce lieu de tourment. J'ai 5 frères, je dois aller les avertir. Et Abraham a dit: ils ont Moïse et les prophètes, écoute-les. C'est ça la parole de Dieu. Qui lisent la parole de Dieu. Et le riche répondit: Non, Père Abraham, car si l'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Cela rassemble la logique de l'évangélisation charismatique aujourd'hui. Les riches ont raisonné: si seulement je pouvais revenir d'ici de l'enfer et les avertir, ils se repentiraient. Telle est la perspective de ceux qui cherchent le déroulement des miracles. Le simple évangile ne suffit pas. Nous devons avoir des signes, des prodiges et des résurrections, sinon nous ne pourrons jamais convaincre les gens. Et le verset 31, Jésus déclara, Luc 16, 31, Abraham lui dit alors: S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Vous n'avez pas besoin de miracles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est assez puissante. Et c'est complètement suffisant par rapport à toute matière de l'âme de l'homme, par rapport à Dieu et par rapport aux autres hommes. La clé, bien sûr, est d'y croire et d'obéir. Numéro 5, la parole de Dieu est la source de la victoire sur la tentation et le péché. Quand Jésus a été tenté par le diable, qu'a-t-il fait? Comment Jésus a-t-il affronté Satan? A-t-il dit: Ah, je vous lis, je vous condamne, je vous envoie à l'abîme? Comment a-t-il affronté le diable? Très simple. Il a affronté dans 3 tentations différentes. Il a affronté dans trois tentations différentes. Et dans chaque cas, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Voilà la clé. La puissance de Dieu a été exprimée dans la parole de Dieu. Le pouvoir n'est pas dans une sorte de contrôle de l'esprit mystique. Le pouvoir est dans la parole de Dieu. Lorsque vous, par l'esprit de Dieu, croyez la parole de Dieu, lorsque vous vivez la parole de Dieu, il y a suffisance dans celle-ci. Le psalmiste a déclaré: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. De plus, l'apôtre nous dit que nous devons la prendre comme partie de l'armure de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, nous dit que c'est l'arme la plus puissante et la plus profonde. Hébreux 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que tout l'épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous avez quoi? Vous avez la plus grande, la plus puissante arme qui existe. Et la parole de Dieu est plus tranchante que toute autre arme. Il n'y a pas d'arme comme la parole. Il n'y a pas d'autre comme elle, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Écoutez ça. En d'autres termes, elle entre dans le cœur, l'âme et la nature d'une personne, mais autre chose aussi pour les jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les gens disent: c'est un problème tellement profond, tu feras mieux d'aller en psychothérapie. C'est un problème si profond, tu ferais mieux d'aller avec cette personne qui a un ministère pour lier le diable et enlever ses démons de toi. Oh, c'est un problème vraiment profond, c'est trop pour nous. Nous ferions mieux de vous envoyer à une clinique psychologique quelque part. Écoutez, la parole de Dieu est vivante, elle est active, elle est puissante. Elle est plus tranchante que toute autre arme. Et elle va aller en profondeur. Elle va couper si proprement et si sincèrement au-dessus de toute autre chose. Elle existe pour révéler les pensées, les intentions les plus profondes du cœur humain. C'est pourquoi au verset 13, il dit: tout est au nu et à découvert. Il va faire ce que la psychanalyse ne fera jamais. La parole de Dieu ouvre l'âme, pénètre, brise le cœur, révèle et suffit pour pénétrer au plus profond de l'âme d'une personne. Peut-il y avoir plus de suffisance que la pensée de Christ et la parole de Dieu vivante? Frère, la clé d'une vie plus n'est pas la Bible, plus d'autres choses. C'est la parole de Dieu recherchée promptement, volontairement et recherchée chaque jour de notre vie. C'est un régime quotidien et une discipline. Je ne pense pas que nous voyons du tout la vie spirituelle comme ça. Nous avons des ennuis et nous supposons que les problèmes sont au-delà de la capacité, au-delà de la perspective de la capacité de la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas vraiment immergés dans l'application quotidienne de la parole de Dieu. Une vie spirituelle saine est liée à une étude quotidienne de la parole de Dieu. De la vie vient la force d'affronter la vie. Et c'est là que se trouve la suffisance. Malheureusement, les gens recherchent leur suffisance et ils ne la trouvent pas. Et ils la recherchent dans la psychologie et dans ce type de sciences de l'esprit, de le mysticisme et les expériences statiques. et le surnaturel et dans les divertissements et techniques mondaines pour l'Église, mais toute cette recherche va dans la mauvaise direction. Et ces choses, au lieu de leur donner ce dont ils pensent, avoir besoin, et ce qu'ils pensent qu'ils vont obtenir, vont les conduire au contraire, exactement le contraire. Écoutez ce que dit le prophète Isaïe dans le chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. 6. La parole de Dieu est une source de croissance et de force spirituelle. Écoutez les paroles de Pierre dans le chapitre 2, 1 Pierre 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez par le salut. La parole de Dieu est la source de croissance et de force spirituelle. La nouvelle vie a besoin d'une nourriture convenable, c'est-à-dire la parole de Dieu. La croissance spirituelle, la maturité spirituelle, la force spirituelle, les processus de maturation, les processus vers la ressemblance avec le Christ sont liés à votre désir et à votre nourriture de la parole de Dieu. Vous allez grandir à travers la parole de Dieu et grandir vraiment, c'est développer la force de faire face aux difficultés. Tout comme un bébé le fait en buvant du lait, ce que Pierre nous dit ici. Un autre exemple est la déclaration de Paul dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 20. Lorsqu'il rencontrait les anciens d'Éphésiens, il leur dit, en récitant un peu l'histoire de son ministère, Actes 20, Paul dit, « Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était était utile en public et dans les maisons. » C'est-à-dire, Paul dit, je n'ai rien retenu d'utile, je leur ai donné tout ce qui était utile. Plus loin, dans le verset 27, Paul dit, il nous raconte ce qui leur a donné. Car je vous ai annoncé tous les plans de Dieu sans rien en cacher. Pas tous les conseils de Dieu, Paul dit, et certains des conseils des hommes. Non. Il a vu dans la révélation de Dieu la suffisance totale. Et puis, dans le verset 32, il leur dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Je vous recommande, dit Paul, à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. La Bible suffit-elle à nous édifier? Suffit-elle pour satisfaire d'affronter toutes les vicissitudes, luttes, besoins et angoisses de la vie humaine? Bien sûr. Il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole est tout ce dont vous avez besoin. La parole est ce qui est utile. La parole donnera la force. Job, le témoignage de Job, ce noble saint, quel témoignage inspirant il a donné sur la parole de Dieu et sa souffrance. Voici un homme qui a tout perdu. Il a perdu ses biens, ses terres, ses récoltes, ses animaux. Il a perdu sa famille dans une mort terrible. Il a perdu sa propre santé. Un homme en privation absolue et en pauvreté. Mais au chapitre 23, verset 12, il dit, Job dit, « Je ne me suis jamais séparé du commandement de ses lèvres. J'ai gardé les paroles de sa bouche plus que ma nourriture. » La parole est tout ce dont vous avez besoin. Job dit, la parole de Dieu a pour moi une priorité plus élevée que celle de manger. La parole de Dieu a pour moi une priorité plus élevée que celle de manger. Quelle est la priorité dans votre vie? Êtes-vous comme Job? Comme Job, est-ce que se nourrir de la parole de Dieu est plus important pour vous que de la nourriture physique? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Appréciez-vous davantage votre propre confort ou appréciez davantage la parole de Dieu? Est-ce que l'estime de soi est ce que vous recherchez ou est-ce l'estime de la parole de Dieu? Si seulement, mes frères, les gens revenaient à cette réalité très fondamentale de la suffisance des Écritures. Mais nous avons des ennuis parce que nous nous concentrons sur nous-mêmes plutôt que sur la parole de Dieu vivant. Job considérait les paroles de la bouche de Dieu comme plus importantes que tout dans sa vie et c'est la raison pour laquelle il a pu supporter ce qu'il a affronté. Et à la fin, il a donné la gloire à Dieu et Dieu l'a confirmé à Job. Donc, la Bible suffit-elle? Un dernier passage. C'est en fait le plus grand témoignage dans le Nouveau Testament sur la suffisance des Écritures. Paul dit, « De ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Paul dit, les Écritures suffisent pour sauver, elles suffisent amplement. Vous n'avez besoin de rien de plus. De plus, verset 16, Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Écoute ça. Les Écritures fournissent un enseignement ou une doctrine. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Elles fournissent un enseignement ou une doctrine. Autrement dit, tout l'enseignement dont nous avons besoin pour la foi et l'obéissance salvatrice. Mais Paul dit aussi, pour corriger ou pour convaincre, avant, signifie arrêter de faire cela, réprimander. Corriger, après, signifie commencer à faire cela. Instruire la justice, c'est faire un pas de plus. Elle peut convertir les gens et les orienter sur la bonne voie. Mais à quel point elle est efficace. Regardez le dernier verset, verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Entièrement préparé pour toute bonne œuvre. Ceci est une déclaration complète. C'est suffisant. La Bible suffit à vous rendre sage pour le salut. Il suffit de lui donner la doctrine, la réprimande, la correction, l'instruction nécessaire à la justice. Il suffit pour rendre un homme de Dieu parfait, parfaitement préparé à toute bonne œuvre, ne manquant de rien. La parole de Dieu est absolument suffisante. Quelqu'un l'a dit. Écoutez. Et si j'ai dit que la Bible est la sainte parole de Dieu, complète, inspirée, sans erreur, mais que je laisse ces pages sans lecture tous les jours et sans s'y apprendre la loi de Dieu. Et si je n'y vais pas pour chercher la vérité, pour trouver des conseils sur mon chemin terrestre, est-ce important ce que je dis? Et la réponse est non, peu importe. Vous pouvez dire que vous y croyez, mais si vous ne l'étudiez pas, si vous n'y allez pas pour chercher la vérité dont vous parlez, alors peu importe ce que vous dites. La parole de Dieu doit être lue, étudiée, crue et obéie avec foi et indépendance de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que réside sa suffisance. Et c'est ça que nous parle le psaume 19 quand les psalmistes nous disent « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, elle rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. C'est ça que nous allons commencer le prochain dimanche pour voir ce passage. Amen.